suite du feuilleton législatif sur la fin de vie, c'est maintenant au tour des sénateurs de se saisir de la question, Isabelle.
Et oui, du 20 au 26 janvier, les sénateurs examinent la proposition de loi sur la fin de vie. Alors, contrairement à ce qui était initialement prévu, ils ont commencé par examiner le projet de loi sur l'aide à mourir, au lieu de commencer par celui des soins palliatifs. Et coup de théâtre et contre toute attente, les sénateurs ont supprimé l'article 4 créant une aide à mourir, que je mets entre guillemets, mercredi dernier. Le vote solennel du Sénat sur l'ensemble du texte aura lieu mercredi prochain. Donc on a déjà quelques éléments pour comprendre le contenu de ce texte et ça tombe bien parce que le délégué départemental d'Alliance Vita est l'invité de Radio Présence et il va nous guider ce matin pour comprendre ces débats. Bonjour Benoît Dacrerite.
Bonjour Isabelle.
Alors, cette commission des affaires sociales du Sénat a remanié le 7 janvier dernier la proposition de loi. Elle avait remplacé un droit à l'aide à mourir par une assistance médicale à mourir. Qu'est-ce que contient finalement cet article 4 qui a été rejeté?
Alors, l'article 4 fixait les conditions d'accès à ce que l'Assemblée nationale avait nommé droit à l'aide à mourir et qu'ils ont reformulé comme l'assistance médicale à mourir. Et en fait, ça restreint les conditions d'accès à ce qui correspondait aux conditions d'accès à la sédation profonde et continue de la loi Claeys-Leonetti. Au passage, ça supprimait pas la possibilité de l'euthanasie et du suicide assisté, oui, qui sont l'objet de l'article 2. On va y revenir. Donc, dans l'article 4, c'était les conditions d'accès. Et en fait, ça introduisait déjà une ambiguïté entre la sédation profonde et continue et une sorte d'intention de donner la mort. Ce qui n'est absolument pas le sens de la loi Claeys-Leonetti. Donc, il y avait une confusion dangereuse. Et par ailleurs, ça restait un texte qui enfreint la ligne rouge de l'interdit de tuer. Or, toute exception sur cette règle, c'est un barrage qu'on fait tomber sans avoir la possibilité de maîtriser l'inondation. C'est ce qu'avaient déjà illustré les débats à l'Assemblée nationale. Sous prétexte de faire une loi très encadrée, en l'espace juste de l'examen du projet de loi, toutes les barrières éthiques étaient tombées et on aboutissait à un texte plus transgressif que tout les textes existants aujourd'hui dans les autres pays. Donc on est vraiment dans l'illustration qu'aucune barrière ne tient. Donc c'est illusoire de vouloir fixer un tel droit. L'Assemblée nationale déjà avait adopté le texte à une très courte majorité, 52 voix de différence, c'est vraiment minime. Ce qu'illustrent les débats au Sénat, c'est qu'il n'y a vraiment pas de consensus sur la question.
Oui, ça veut dire
donc
que la question
est grave. Donc il n'y a ni consensus sur le sujet, ni possibilité d'un compromis acceptable. Il n'y a pas de compromis sur l'interdit de tuer. On ne peut exclure personne de la prévention du suicide. On ne peut exclure personne de la solidarité. Ça ne souffre pas d'exception.
Alors, sur cet article 2, ce fameux, qui a été reformulé par les sénateurs, vous parliez de ce risque de confusion avec la loi Claeys-Leonetti, qui instaurait une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette confusion?
Alors, la problématique, c'est quelle est l'intention dans les soins. C'est pour ça qu'on peut revenir à la rédaction de l'article 2 par les sénateurs. Cet article 2 qui introduisait dans le projet de loi, dans la proposition de loi, le droit à donner la mort, donc à l'euthanasie, au suicide assisté, là est reformulé pour dire toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance. Donc voilà, c'est la priorité aux soins de la personne et à être soulagé, à être accompagné et soulagé. Et toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu'à son décès sans qu'aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d'aider à mourir. Donc là, les choses sont très claires sur l'intention d'accompagner la personne sans jamais donner la mort. Donc ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Là, on revient à l'équilibre des lois Leonetti qui avaient été adoptées à l'unanimité. On voit qu'on n'était pas du tout dans la même logique. Là, on n'est pas du tout dans l'unanimité. Et on réaffirme la priorité de l'accompagnement de la personne et du soin.
Et finalement, ça revient à valoriser et à mettre en avant les soins palliatifs.
Exactement.
Cet article 2.
Et en fait, on revient... Alors, c'est pour ça que c'est important de revenir à la priorité. Aujourd'hui, reprennent les débats au Sénat pour examiner l'autre projet de loi, puisque ça avait été séparé en deux volets bien distincts. Et cet autre projet de loi, c'est le développement des soins palliatifs, qui est la priorité. Nous avons un beau cadre et des soins palliatifs qui sont qui font un travail magnifique. Le problème, c'est qu'ils sont trop peu développés. 50% des personnes qui devraient accéder aux soins palliatifs n'y ont pas accès. 50% des personnes qui en ont besoin. Donc là, il y a une injustice grave. Et on appelle depuis plusieurs années le développement d'un grand plan pour le développement des soins palliatifs. Ce qui a été annoncé sur un plan sur 10 ans, avec une croissance qui compensait à peine l'inflation et qui ne faisait absolument pas, qui restait totalement insuffisante, et pour combler ces 50% de lacunes, et pour faire face à une demande qui va aller croissant avec le vieillissement de la population.
Bien sûr, oui.
Donc, ce qu'on appelle, c'est le développement d'un plan grand âge qui prenne en compte toutes les questions liées à cet accroissement, de ce vieillissement de la population, cet accroissement de la dépendance, pour vraiment le prendre en compte. Et le développement des soins palliatifs doit être, c'est pas seulement une intention qui doit être donnée, c'est aussi une volonté politique de financer ce développement, donc la mise en place d'un cadre, d'une loi de programmation budgétaire qui garantisse le développement des soins palliatifs, donc une loi de programmation pluriannuelle pour garantir qu'on donne les moyens. Voilà, ça c'est la priorité. Et d'ailleurs, c'est ce que révélait un sondage Fondapol de décembre 2025 qui montrait que les Français n'étaient majoritairement pas d'accord avec les critères et les formulations de la loi sur l'aide à mourir issue de l'Assemblée nationale. Donc il n'y avait vraiment pas accord et là-dessus et consensus.
C'est pourtant pas ce qu'on entend dans les médias.
C'est pas ce qu'on entend, mais il faut revenir à la réalité en fait. On a peut-être des politiques qui sont quelquefois un peu déconnectées de la réalité et peut-être des médias qui leur emboîtent le pas. Il faut revenir à la réalité de ce que vivent les Français. Il n'y a pas accord sur ces critères-là. Et surtout, l'affirmation par la majorité des Français que la priorité, c'est l'accès aux soins palliatifs et pas une aide à mourir. C'est l'accès aux soins. Il faut avoir conscience. On peut prendre l'exemple des pays qui ont déjà légalisé où on voit comment ça se passe. Au Canada, ils ont légalisé l'euthanasie et en fait, on se rend compte que la majorité des personnes qui font appel sont des personnes de classe défavorisée et que pour beaucoup, c'est par manque d'accès aux soins. C'est par manque de moyens pour se soigner qu'ils en viennent à demander l'euthanasie. Mais c'est ça qu'on veut.
C'est ça qu'on veut pour la France. Dans la justice,
or,
on vous parle
aujourd'hui,
de
notre système de santé est en crise. On a du mal à accéder aux soins. Donc on a peut-être une sécurité sociale qui fait que le financement pour la personne, pour le patient, n'est pas le problème direct. Mais avoir le financement, mais ne pas avoir le soin du tout, parce qu'on n'a pas accès aux soins. Si on légalisait une telle loi sur l'aide à mourir, sans accès aux soins palliatifs, sans accès aux spécialistes et aux soins qui conviennent pour sa maladie...
Et c'est l'aide à mourir qui va prendre le pas sur les soins palliatifs.
Ce serait indécent.
Quelles pourraient être les conséquences sur les patients eux-mêmes? justement, s'il y avait cette possibilité d'une aide à mourir.
Alors la difficulté, c'est qu'il faut bien entendre que les patients sont justement dans une situation de détresse, de souffrance, de douleur et de souffrance psychique, voire existentielle, et que c'est tout ça que prend en charge le soin palliatif. Et c'est pour ça que il faut entendre les patients qui disent « j'en peux plus, je veux mourir ».
Et vous pensez que si on leur...
Entendre ça,
oui,
pour pouvoir les prendre en charge. Et lorsque les personnes sont prises en charge par les soins palliatifs, dans l'immense majorité des cas, la demande de mourir disparaît parce qu'ils sont pris en charge. Mmh. La difficulté d'ouvrir cette porte, c'est d'ancrer la personne dans sa désespérance. De la même façon que lorsque on informe sur des suicides, quand il y a l'annonce d'un suicide dans les médias, immédiatement il y a des personnes désespérées qui se disent bah, « c'est peut-être la solution ». C'est dramatique. En Allemagne, il est interdit d'informer sur un suicide parce qu'on sait que ça a des conséquences, c'est ce qu'on appelle l'effet Werther. Donc, prendre conscience qu'en ouvrant une porte, en fait, on abandonne des personnes au désespoir, il faut être conscient de ses responsabilités. Notre société doit se montrer solidaire de tous et la prévention du suicide ne doit souffrir aucune exception. Tout le monde doit y avoir accès.
Et est-ce que ça veut dire, Benoît Dacquerel, que s'il y a cette porte ouverte à l'aide à mourir, les personnes qui souffrent n'oseront plus dire leur souffrance parce qu'elles pourraient craindre que la seule solution qu'on leur proposerait, ce serait justement
imaginez cette euthanasie personne ou ce suicide appelle assisté. SOS Amitié et disent « j'ai envie de me suicider ». Bon, d'accord, quand ? Vous imaginez ? Là, on se trouve avec des personnes qui mettent 6 mois à avoir le médecin, à avoir accès au médecin dont ils ont besoin pour se soigner. Alors, on dit dans 6 mois, mais c'est pas possible. Bon, bah alors, je mourir. Ah, bah dans 15 jours, c'est bon. Vous trouvez ça acceptable ? C'est totalement indécent. C'est pour ça que la solution, c'est face au manque de consensus et au danger que présente une telle loi, c'est de dire mais arrêtons d'examiner une telle loi, donnons la priorité aux soins palliatifs, et une fois qu'on aura développé les soins palliatifs et qu'on les aura vraiment mis en place, alors on peut se poser la question, mais la question ne se posera plus.
En tout cas, c'est effectivement ce discours qu'il est bienvenu de transmettre à ses sénateurs et à ses députés en leur écrivant. Il y a plein de modèles, hein, de lettres et d'arguments qui sont proposés, non seulement par Alias Vita, mais il y a aussi les associations
donc,
familiales.
Faut les féliciter sur le travail qui a été fait pour changer la logique du texte, mais il faut surtout reporter l'examen du texte au-delà du développement des soins palliatifs qui est la vraie priorité.
Voilà, merci beaucoup Benoît Dacquerel. Je rappelle que vous êtes le délégué départemental d'Allianz Vita et vous avez alerté les auditeurs de Radio Présence à propos de cette proposition de loi sur la fin de vie actuellement débattue au Sénat. Il reste 2 jours pour écrire à son sénateur. On y va tous à nos claviers. Merci.